on a des trésors à trouver dans le travail des anarchistes.
L'anarchie, c'est plus lutter contre les dominations.
C'est une morale, c'est une façon de concevoir la vie. C'est...
Quand on a un mot qui est beau et qui a une histoire aussi belle, faut pas s'en priver.
Alternative, autogestion, autonomie, anarchie. Histoire d'A, le podcast des émancipations. Comme à chaque fois, vous pourrez retrouver une bibliographie liée à cet épisode sur le site histoiredalepodcast.fr. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire d'A. Aujourd'hui, je me trouve à Lyon, à Pardieu, dans un bar. Donc, je vous prie de m'excuser déjà sur peut-être les bruits parasites qui interviendront dans ce moment. Je suis avec Philippe Pelletier, qui est géographe et enseignant-chercheur. Et nous allons parler des idées reçues sur l'anarchisme, puisque Philippe, tu as sorti un livre qui s'appelle « Anarchisme vent debout ». C'est déjà la troisième édition, donc il y a beaucoup d'idées reçues. On va en parcourir certaines. Mais tout d'abord, je voulais en savoir un peu plus sur ton parcours personnel et politique. Qu'est-ce qui t'a fait devenir géographe, puis ensuite anarchiste ?
Je suis issu de la classe moyenne, typique, j'allais dire. Alors, ma mère, quand elle a eu mon frère et puis moi, elle a arrêté de travailler, elle était laborantine. Mon père était fonctionnaire dans les PTT. Donc, en fait, il a gravi les échelons, on a beaucoup déménagé et au fur et à mesure... des changements, les conditions de vie se sont améliorées, on va dire. Au début, il n'y avait pas les toilettes, et à la fin, il y avait l'eau chaude et tout. Enfin bref, je schématise. Donc c'est un peu le profil d'un enfant de la classe moyenne des 30 Glorieuses, mais qui commence à avoir une conscience politique à plusieurs niveaux. Bon, déjà parce que mon père a vécu la guerre et très très mal. Il a été STO en Allemagne, donc il a vu les bombardements, il a vu que tous les Allemands n'étaient pas des nazis. Donc il y avait des choses de cet ordre-là. Le fait que le voyage de noces de ma mère et de mon père, c'était en Allemagne justement pour voir des amis allemands qui s'étaient faits pendant la guerre. Donc ça m'a beaucoup fasciné en tant qu'enfant puis ado, comme l'idée de paix en fait, de refus de la guerre. Et puis mon père était un passionné d'histoire, donc la bibliothèque était remplie de livres sur la guerre, sur la Shoah, sur le nazisme, sur le fascisme. Donc j'ai une culture politique qui passe par là. Plus des livres comme Yves Gibault, Allons enfants, qui m'ont aussi éveillé à l'antimilitarisme. Et puis après, ces idées d'adolescence, quand on est confronté à l'actualité, la guerre au Vietnam, la faim dans le monde, les choses comme ça, on commence un peu à réfléchir. Et de fil en aiguille, mon engagement a commencé d'abord par l'antimilitarisme. Il s'est poursuivi de ce côté-là, puisque je suis devenu objecteur de conscience. Et puis, assez logiquement, l'antimilitarisme a fini par croiser l'anarchisme, logiquement, par des copains. D'abord, quand j'ai été étudiant à la fac, en fac de géographie, au début des années 70, à Saint-Étienne, où j'ai également milité dans un syndicat qui s'appelait le MAS, Mouvement pour une action syndicale à l'époque, qui se voulait une troisième voie entre les deux UNEF, l'UNEF communiste et l'UNEF trotskiste. Et à l'époque, proche de la CFDT, dont le mot d'ordre était quand même l'autogestion. Donc c'était aussi quelque chose qui me plaisait beaucoup, l'idée d'autogestion, la gestion directe pour les anarchistes. Donc de fil en aiguille, voilà, je suis arrivé au sein du mouvement anarchiste.
Et en parallèle, tu as un parcours de géographe. Donc je vois maintenant que tu es très spécialisé sur le Japon, mais aussi sur Élisée Reclus, qui est un autre géographe anarchiste connu. Est-ce que ça, par exemple, c'était dès le début, tu avais une envie de croiser ton métier et ton engagement politique ?
Alors, en fait, c'est plus en termes de cheminement personnel, je dirais, plus en termes de parcours, de citoyen du monde, mais concret, c'est-à-dire par les voyages, rencontrer d'autres peuples... mon intérêt pour le Japon parce que c'est l'autre bout du monde, c'est quelque chose qui est à la fois nous-mêmes et pas nous-mêmes, parce qu'il y a un côté étrangement familier pour le Japon, avant même l'arrivée de la J-pop, mais ils sont pas comme nous, mais ils sont quelque part un peu comme nous. La littérature japonaise m'a toujours plu, le cinéma japonais, etc. Donc il y avait ce côté-là, donc de sensibilisation, je dirais, en tant que citoyen du monde, si on peut dire ça comme ça, de voyage, de découverte, et du coup de prise de connaissance d'autres choses, d'autres cultures, et notamment en particulier Mon séjour au Japon m'a vraiment fait prendre conscience de mon éducation, alors, qui n'était pas complètement religieuse, mais il y avait quand même cet arrière-plan conventionnel, je dirais, d'éducation. Même si j'étais à l'école publique, il y avait quand même le côté un peu catho dans la famille. Et ça, j'ai complètement rompu avec ça parce que j'ai vu finalement que l'idée de Dieu ne fonctionnait pas de la même façon dans d'autres pays comme le Japon et qu'on n'avait pas besoin de Bible ou de Dieu transcendant pour faire fonctionner une société avec des normes, des valeurs, de la solidarité, etc. etc. Donc du coup, voilà, la géographie a alimenté ça, si je puis dire. C'est finalement plutôt sur le tard que j'ai raccroché les wagons, en quelque sorte. C'est-à-dire que ma réflexion de géographe a rejoint ma réflexion d'anarchiste en constatant l'existence d'Élisée Reclus, Pierre Kropotkine, Léon Metchnikoff et d'autres. Pour me rendre compte, et c'est là où j'en suis un peu dans ma réflexion, c'est que contrairement à l'idéologie bourgeoise qui fonctionne sur la flèche du progrès, ou l'idéologie marxiste qui n'en est pas loin et qui est aussi très historique, c'est une philosophie d'histoire avec des stades programmés. Donc quelque part, le communisme, il arrivera un jour, c'est inéluctable. Moi, je marchais déjà pas du tout dans ce truc-là, je trouvais que ça ne marchait pas. Et la géographie a montré qu'en fait, y a un plan d'horizontalité, il y a un plan de refus de la philosophie de l'histoire qui paraît beaucoup plus intéressant, beaucoup plus proche de l'anthropologie. Et ce n'est pas un hasard si, là, pareil, c'est quelque chose que j'ai découvert ou redécouvert, que beaucoup d'anthropologues s'intéressent à l'anarchisme, hein, David Graeber, Pierre Clastres, Charles MacDonald, etc., parce qu'effectivement, il y a cette existence concrète de pratiques anarchistes déjà dans la société, déjà dans l'humanité, et qu'elle existe encore. Et que, comment dire, derrière, c'est toute la question des... Est-ce que ces peuples-là, ils sont pas en arrière, ils sont pas arriérés, comme on le dit.
Alors ça, j'ai fait une interview de Jean-Paul Demoule sur les questions justement d'anthropologie anarchiste. Mais donc là, si je comprends bien, quelque part, la géographie et l'anarchie se sont retrouvées parce que tu as lié le fait que l'anarchie était l'expression d'un désir humain d'organisation, mais qui était forcément ancré en un lieu, en un temps, que c'était lié à l'endroit où ils étaient, comme une réflexion de géographe, quoi.
C'est ça. C'est l'habiter. C'est l'habiter et c'est le principe du ici et maintenant. C'est-à-dire qu'on reproche beaucoup aux anarchistes d'être impatients parce qu'ils veulent les choses maintenant. Ils ne veulent pas attendre ni les prochaines élections, ni le prochain président, ni la prochaine révolution qui viendra peut-être jamais, etc. C'est agir ici et maintenant. Et en fait, dans ici et maintenant, y a ici qui est de la géographie. C'est le lieu, c'est l'habiter la terre. C'est le fait que aussi, finalement, les luttes, elles doivent d'abord partir de l'endroit où on vit, où on travaille, où on consomme. Même si effectivement avec la mondialisation ça a beaucoup compliqué les problématiques, mais c'est de là qu'il faut partir, c'est-à-dire que je dirais que plus que le sort des ours polaires sur la banquise, c'est la question de l'ours ou du loup dans certaines vallées qui nous intéresse, étant entendu que moi-même, je suis, habitant à Saint-Étienne, n'étant pas agriculteur ni paysan, je ne suis pas confronté à cette question-là. Donc je ne vais pas avoir des positions péremptoires pour dire non, il faut protéger le loup, non, il faut le tuer. C'est à ce moment-là, effectivement, à la collectivité, à la communauté, à la commune plus exactement, le communalisme, vieux fond anarchiste, de poser la question et d'essayer de la résoudre.
Je te rejoins. Allez, attaquons notre bloc d'idées reçues sur l'anarchie. Le premier par lequel tu commences, qui est effectivement, je dirais, une rengaine assez habituelle, c'est de réduire l'anarchisme à cette formule toute faite, ni Dieu ni maître. Donc c'est un livre où, en fait, à chaque fois, tu vas te saisir d'une idée reçue pour essayer, moi je trouve en tout cas, de mettre énormément de nuances et de dire oui, mais non, mais oui, mais enfin, mais pas complètement. Enfin voilà, donc moi c'est ça que j'ai adoré dans ce livre-là, c'est que ça me fait cheminer entre justement tous ces opposés que tu vas placer sur mon chemin et qui vont me faire me questionner sur moi, où je me situe. Qu'est-ce que tu as à dire justement sur cette formule « ni Dieu ni maître » ?
Alors déjà, ce qui est significatif, c'est que c'est une formule qui est de Blanqui, donc qui est typiquement dans la tradition insurrectionnaliste, jacobine, presque pré-léniniste.
Okay. Bon. Alors là, il faudrait que tu expliques par exemple, donc insurrectionniste, je pense que les gens comprennent l'insurrection, Mais par exemple, insurrection versus révolution versus...
Non, c'est une insurrection de type jacobine, c'est-à-dire centrale, centralisée, centralisatrice, avec un pouvoir qui prend léniniste, c'est-à-dire, en gros, c'est ça. D'accord. C'est ce principe-là, c'est pas du tout l'idée de révolution émiettée, c'est-à-dire qu'il y a une avant-garde, il y a un commandement central, il y a une direction, etc. Il y a le parti, voilà.
Il y a des gens qui savent et...
C'est ça. Okay. Donc c'est un mot d'ordre de Blanqui qui a été repris par les anarchistes parce qu'effectivement, il cingle. Mais c'est assez intéressant parce que, donc, t'as tout compris, t'as parfaitement bien saisi ce que je voulais dire. C'est qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que maître, effectivement, personne ne veut de maître, personne ne veut être dominé, personne ne veut subir des ordres, même si dans la réalité, il y a beaucoup de compromis ou de concessions, que si, que là, et que ce n'est pas si simple. Mais quelque part, il y a un refus d'être esclave, il y a un refus de l'esclavage, qui est un refus qu'on trouve partout dans l'histoire, dans tous les pays. Mais en même temps, on veut être maître de soi-même, on veut être souverain de soi-même. Donc il y a aussi cette question de la souveraineté, qui est un terme qui est revenu à la mode maintenant politiquement, mais qui correspond aussi à une problématique anarchiste depuis deux siècles. C'est l'idée de contrôler, de maîtriser, même si ça pose des problèmes après sur maîtriser l'environnement, quoi exactement, etc. Mais voilà, il y a cette espèce d'interrelation entre les deux éléments. Et puis si on prend l'autre terme qui est celui de Dieu, clairement, dans l'anarchisme, il y a refus du Dieu transcendant, qui correspond à une espèce de grand chef suprême, invisible, omnipotent, omniscient, enfin la caricature de Dieu dans la Bible, y compris avec son cortège d'ordres absurdes, de Cain et Abel,
de souffrance,
ouais. De sang, enfin la totale. Mais ce qui ne veut pas dire que dans la problématique anarchiste, il n'y ait pas une dimension... Alors je dirais pas métaphysique, mais sur le sensible et sur l'idée du sacré par rapport à la mort, qui est une véritable interrogation humaine, anthropologique, et la personne a la réponse. Mais de fait, à partir du moment où on s'intéresse à ça, le rapport naissance-mort, et ce qui est entre les deux, fatalement, on est un peu sur ces terrains-là, qui sont des terrains occupés par les religions d'ailleurs. C'est pas un hasard, puisque c'est anthropologique, donc ça va plus ou moins marcher, et il se trouve que ça c'est un peu oublié. Dans la culture anarchiste, il y a quand même des auteurs qui sont allés de ce côté-là. L'un des plus connus, c'est Gustav Landauer. L'un des plus problématiques, peut-être, c'est Martin Buber. En plus, c'est souvent des gens, des personnes qui sont liées au judaïsme, donc qui ont aussi une culture spécifique. On sait très bien que dans le judaïsme, il faut discuter les textes bout à bout. Point. Enfin, c'est peut-être encore plus vigoureux que chez les protestants. Donc il y a cette idée, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, d'herméneutique, enfin, voilà, de réflexion, de philosophie un peu en profondeur. Bon.
Et il me semblait aussi qu'il y avait une réflexion chez les anarchistes sur cette question de maître, de comment on se prémunit de soi-même devenir un maître des autres.
Oui, absolument. Et après, j'ai mis de côté la question des rapports hommes-femmes, par exemple, ou des rapports adultes-enfants. Je vais prendre un petit raccourci par rapport à l'éducation et par rapport à la question de l'autorité, finalement, qui est un peu la sous-question. Alors, autorité qui peut être un mot un peu fourre-tout, parce qu'on peut avoir on mélange souvent compétence, expertise, autorité et directivité. Dans le cadre de l'anarchisme, sur ces sujets-là, on peut prendre une phrase que j'aime beaucoup, qui est celle de Bakounine par rapport à l'éducation. Il a dit, l'éducation, c'est du maximum d'autorité au maximum de liberté. Et pour moi, c'est exactement ça, ce rapport avec la question de maîtrise du comportement, d'apprentissage de la liberté et de la relation avec l'autre. Donc quand on est enfant, on n'est pas encore, on n'est pas maître de soi-même complètement. Mais on est un futur adulte, et contrairement à des éducations qui cherchent à formater ou qui pensent déjà que l'enfant il peut pas être du tout autonome, là au contraire dans l'idée anarchiste c'est que c'est une liberté en devenir ou qui est déjà là. Par contre par conséquent il y a une maîtrise déjà qu'on peut acquérir. Et le problème par rapport à l'autorité en tant que l'autorité de type dictatorial, l'autorité autoritaire si on peut dire. C'est dans le collectif, fatalement, que la question elle se résout. Le collectif, y compris la famille, le couple, s'il y en a un, la famille, s'il y en a une, le groupe, le monde du travail, le syndicat, le parti, etc. C'est ça le truc. C'est là-dedans que ça se, logiquement, ça se résout.
Mais c'est vrai que tu as parlé un moment de compétences, et c'est vrai que dans ton livre, il y a, je crois que c'est Landauer, moi je ne sais plus, je vais retrouver à la limite, qui dit qu'il n'est pas du tout contre la compétence, et qu'effectivement, quand il monte dans un train, il se soumet quelque part à l'autorité du conducteur de train, mais parce que c'est lui qui sait.
C'est
quoi.
Ça, c'est Bakounine, Malatesta, quand il parlait des cordonniers, hein, il se remet à l'autorité du cordonnier pour lui faire des bonnes chaussures, hein. C'est évident. Je pense que pendant très très longtemps, ces questions-là ne se posaient pas dans le mouvement anarchiste, mais je pense qu'elles se sont reposées notamment en France à l'issue de mai 68, où il y a eu la grande confusion, où l'idée finalement, l'anarchie, on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, ce qui n'est pas ça du tout. C'est pas ni le chaos, ni l'anomie. C'est les fonctionnements collectifs, les règles librement et collectivement consenties. Donc fabriquées ensemble et admises ensemble et respectées et vérifiées derrière. Hein. Et sur le terrain politique, ça veut dire que quand il y a des mandats, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire, c'est contre l'idée du démiurge qui est capable de tout faire, capable de cultiver son jardin, d'écrire un livre, de s'intéresser aux panneaux solaires, que sais-je encore. Non, il y a quand même l'idée que dans une société, il y a d'abord on a envie de faire des choses et pas d'autres, et puis on sait que les autres peuvent aussi avoir ces mêmes envies. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre quasi organique ou social entre les différents éléments d'entente pour faire avancer la société. Et par conséquent, c'est là où on partage la tâche, on partage les tâches et on les contrôle. Donc on mandate, et le mandat, il est impératif, il est révocable, même si dans la pratique, ce n'est pas toujours facile à appliquer.
Et oui, comme toujours, c'est difficile. Une autre idée reçue que tu abordes à un moment, c'est l'idée selon laquelle, pour les anarchistes, l'homme serait bon par nature. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus ?
Ah oui, ça c'est absolument hallucinant, parce que c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup, et notamment dans la littérature, on va dire bourgeoise ou de droite ou classique, ou même chez les religieux, qui en fait estiment que le projet anarchiste est impossible parce que l'homme est soit naturellement mauvais, donc à un moment donné ça va foirer, soit au contraire il est naturellement bon. Et que, par conséquent, finalement, il n'y a pas besoin de cadre bien précis. Ces deux types d'idées-là, c'est des idées qu'on peut qualifier de presque, comment dire, de
simplistes.
C'est des idées d'absolu. C'est penser l'absolu. Donc, et là, on retombe sur le dieu du monothéisme, qui est un dieu qui sait tout, qui fait tout, etc. Et c'est une vision absolue du monde absolu, comme quoi, effectivement, il n'y aurait pas de nuance, il n'y aurait pas de contradiction, y compris dans l'individu, y compris dans les sociétés, que finalement, il y aurait des schémas préétablis et qu'on serait aussi victime de quoi soit de l'inné, soit de l'acquis, il n'y aurait rien entre les deux, il n'y aurait pas de construction en réalité, c'est ça. Et en fait, le problème, il est là. Et tous ceux qui travaillent un peu dans l'éducation ou l'instruction le savent très bien, c'est qu'on est dans les processus de construction, d'apprentissage en permanence. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut maîtriser. Si on pense qu'il y ait un absolu à la base, on est foutu.
Parce que la vision anarchiste, elle est plutôt de dire qu'en chacun de nous, il y a le bon et le mauvais, et que la question, c'est comment on gère ces contradictions collectivement.
C'est exactement ça, sauf qu'effectivement, peut-être dans certains textes anarchistes ou certains propos anarchistes, il y a des fois une vision un peu irénique, trop de volontarisme qui fait que...
Irénique, pardon.
Dans le sens que un peu bisounours, quoi. Okay. C'est-à-dire que si on donne le bon mot d'ordre et si on fait la bonne action, ça marchera okay. Très bien, et de même, les gens se réveilleront, prendront conscience. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Bon.
Okay. Moi, ce que j'entends le plus souvent, et qui est en plus quelque part l'utilisation médiatique du mot anarchie, c'est le chaos. Mmh. C'est-à-dire, si on doit dire la circulation à Paris, c'est chaotique, on ne va pas dire ça. On va dire à Paris, c'est l'anarchie. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc qui revient, je trouve, systématiquement dans les conversations. Pourquoi ça te semble vraiment le truc, quelque part, le plus faux qu'on puisse dire sur l'armée. Enfin, je ne sais pas si c'est le plus faux d'ailleurs, mais...
Alors, c'est des facilités de langage, évidemment. Puis c'est un moyen de discréditer quelque chose, parce que l'anarchie, dans ce sens-là, c'est le côté chaos, pas bien, c'est sombre, c'est pas bien, c'est pas acceptable, c'est pas légitime. Après, là, et ça a été une des difficultés, et ça l'est encore de la part de mouvements anarchistes, c'est que les compagnes et les compagnons se sont posé la question à peu près après la Commune de Paris, c'est-à-dire que est-ce qu'on doit garder ce mot anarchie qui effectivement véhicule des contresens, qui n'est pas compris chez les gens, qui est déformé, volontairement déformé par ceux qui ne veulent pas lâcher le pouvoir évidemment. Donc est-ce qu'il y a vraiment intérêt à le garder ? Et du coup, il y a eu des grandes discussions, et en particulier tous les anciens communards qui s'étaient réfugiés soit en Belgique, soit en Confédération helvétique, ils étaient partagés sur la question. Il y en a qui étaient pour rester pivotés autour de l'idée du communalisme et garder l'idée de socialisme, avant que le socialisme devienne ce qu'il est devenu de nos jours. Et puis d'autres disant, et parmi ces autres-là, il y avait Élisée Reclus, Kropotkine et d'autres, disant, mais non, assumons l'idée d'anarchie posée par Proudhon, Godwin, Déjac et tous les autres, pour dire, on s'en empare, justement, pour que ça aide les gens. Alors, ils étaient peut-être un peu optimistes, pour que les gens, justement, comprennent qu'en réalité, l'anarchie dans le sens... Pas de chef, pas de dictateur, pas de prêtre, pas de tout ce qu'on veut. C'est possible, c'est parce que quelque part, c'est ce que l'individu veut aussi et va le comprendre et va se l'approprier. Donc il ne faut pas renoncer à ça. Il ne faut pas renoncer à cette idée, je ne sais pas comment l'appeler, qui est quelque part au fond de nous, cette aspiration.
Ceux qui voulaient abandonner le mot anarchie, ils voulaient utiliser quoi alors comme terme ?
Communaliste ou socialiste ?
Effectivement, ouais, pareil, des sens très, très variés dans l'histoire. Quoi. Ouais.
Oui, et puis après, ça dépend de qui fait quoi là-dedans, parce qu'en fait, c'est aussi l'autre aspect de la problématique sur l'organisation. Pendant très très longtemps, les anarchistes ou tout ce courant libertaire ou du socialiste révolutionnaire libertaire dans le sillage de Bakounine et des autres disaient ils voulaient être dans le mouvement ouvrier, vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont fait tous les efforts pour rester dans la première internationale, pour rentrer dans la deuxième, pour éventuellement rentrer dans certains soviets, etc., pour ne pas se déconnecter, en gros, du mouvement ouvrier au sens large, hein, ouvrier paysan. Donc ils disaient, pas question d'avoir une organisation spécifique anarchiste. C'est pas le but, c'est pas comme ça. On n'est pas une secte, on n'est pas un parti, on n'est pas une église. Et en même temps, d'autres qui en fait sont arrivés là par les vicissitudes de l'histoire ont pensé et ont fait à un moment donné qu'il fallait créer une organisation anarchiste, quelle qu'elle soit, mais qu'il fallait le label pour que les choses soient claires. Voilà. Soit en forme d'autodéfense, soit en forme d'affirmation idéologique dans le sens de faire de la propagande, soit dans le sens de rassembler les anarchistes. Ce qui n'est pas exclusif de rentrer dans un syndicat, par exemple, ou dans un mouvement de masse. Cette problématique-là, elle existe toujours, plus ou moins, en sachant que bon, les forces anarchistes sont moins importantes que pendant la Révolution russe ou la Révolution espagnole.
Et de toute façon, c'est des mouvements... je pense que c'est des questionnements qui n'auront jamais de fin. Enfin, j'imagine que c'est des questionnements qui s'adaptent à où on est, qu'est-ce qui se passe, qui on a en face.
Absolument, absolument. Alors, le seul problème... et je l'analyserai plutôt sous un angle quasi micro-sociologique, c'est que beaucoup de compagnes et compagnons ont tendance à dire que ma voix, c'est la bonne. C'est-à-dire qu'il faut... Voilà. Et qui, du coup, l'érige en doctrine sans pragmatisme. Moi, je suis assez pragmatique. Et c'est, pour moi, ce n'est pas péjoratif de s'adapter. Parce qu'on s'adapte de toute façon. Alors, des moments, on claque la porte, mais on ne claque pas la porte tous les jours. Enfin, je veux dire, on est aussi dans la construction, on est aussi dans le compromis. Et le compromis, c'est la charte d'Amiens, concrètement, dans le syndicalisme révolutionnaire français, et pas l'anarcho-syndicalisme, comme on dit très souvent.
Alors, précise-moi cette nuance, la charte d'Amiens, par exemple.
C'est l'un des bugs, je pense, du film de Tancrède Ramonet, que par ailleurs j'estime, ou encore de l'émission qu'il y a eu sur France Inter. C'est une grande confusion. C'est que le syndicalisme révolutionnaire, l'idée, c'est donc l'autonomie des syndicats, le fait que ce soit les syndiqués et pas une bureaucratie qui contrôle le syndicat, et que l'objectif, c'est la révolution. Enfin, à la fois l'objectif et le moyen, c'est la révolution. Après, la finalité de la société qu'on veut, dans le syndicalisme révolutionnaire au sens strict, n'est pas définie, pas forcément. Dans les statuts de la CGT, les premiers statuts de la CGT, où il y a eu un compromis, en gros, entre le courant socialiste, pré-léniniste, pré-communiste et le courant anarchiste, il y a cette idée que le plus important, c'est d'être pragmatique dans la défense des travailleurs, plutôt que de réfléchir sur une société qui que quoi demain, est-ce qu'on fera une fédération comme ceci ou quoi, est-ce qu'on fera du mutualisme comme ceci ou quoi, qu'est-ce qu'on fera des coopératives. Non, on met ce débat un peu presque ésotérique de côté et on est un outil de lutte. C'est ça le syndicat, on est un outil de lutte. Et en réalité, donc, c'est ça, les anarchistes sont dans ce type d'organisation. Et en fait, dans la réalité, il n'y a que deux endroits au monde et deux moments historiques au monde où ces syndicats-là sont allés un pas plus loin en disant « Maintenant, on réfléchit sur la finalité. Quelle société on veut ?» Voilà, même chose. Hein, on passe du moyen à la fin, vraiment. Et à la reconstruction, quelque part, post-révolutionnaire. Et le premier pas, c'est en Argentine, au début du XXe siècle, avec la FORA. Le cinquième congrès de la FORA a adopté le communisme anarchiste comme finalité, donc comme la société. Ça a créé une scission d'ailleurs, bon, évidemment. Et puis le deuxième exemple, où là il n'y a pas eu de scission en revanche, et qui est un exemple très significatif, c'est en Espagne, en 1936, le fameux congrès de Saragosse au printemps, juste avant la révolution espagnole. Donc la CNT espagnole, elle s'est créée en 1910. Donc 36, il a fallu attendre 26 ans pour que la maturation du monde syndicaliste et des anarchistes amène à se poser la question du programme et de la société qu'on voulait construire. Et c'est là qu'ils ont adopté, eux aussi, le communisme libertaire. L'anarcho-syndicalisme, c'est ça. C'est ça, l'anarcho-syndicalisme. Ça, c'est proche, on est d'accord, là, je fais un peu de l'exégèse et de l'histoire, mais je pense que c'est important de dissocier, parce que dans tous les syndicalistes révolutionnaires ne sont pas anarchistes. De même que tous les anarchistes ne sont pas forcément syndicalistes. Donc faire la confusion. Et puis un dernier point sur cette question-là qui est importante, c'est qu'en réalité, le terme d'anarcho-syndicalisme, il vient d'où ? Il vient des marxistes, il vient des adversaires marxistes, qui justement, au moment où les anarchistes sont rentrés dans les syndicats ouvriers, ont voulu délégitimer cette entrée auprès des ouvriers, des travailleurs, en disant... ouais, c'est des anars, c'est des anarchistes. En gros, là, encore à nouveau, la logique du chaos, du casseur, etc. Et c'est eux qui ont parlé d'anarcho-syndicalisme en premier. C'est eux. C'est pas les anarchistes. Puisque justement, les anarchistes, ils parlaient de syndicalisme révolutionnaire. Avant, ensuite, d'arriver sur la finalité. Donc, dans le chemin historique, c'est ça. Alors, il s'est passé aussi la même chose qui s'est passée après la Commune de Paris. C'est-à-dire, les gens qui faisaient la Commune de Paris s'appelaient les communeux. Et c'est les Versaillais qui les appelaient les communards. Le « art » en français est péjoratif. Et les communeux, en exil, ont pris... C'est un peu comme les gueux, le mouvement des gueux. Puisqu'ils nous appellent de gueux, OK, on assume, on est des gueux. On est des salopards, on est des gueux, on est ce que vous voulez. Et ce qu'ont fait les communaux aussi, ils sont appelés communards. Ben, les anarchistes ont fait pareil. Ah bon, ben, vous nous appelez anarcho-syndicalistes, on va s'appeler aussi anarcho-syndicalistes. Donc voilà, c'est des jeux un peu compliqués d'histoire, mais...
Non, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est la question que tu amènes de la finalité. C'est-à-dire, on peut imaginer mettre en place un outil de lutte en réfléchissant au fait que personne ne prendra le pouvoir dans cet outil-là, sans forcément savoir où on va, parce qu'on sait dès le début que cette question de où on va, il va falloir qu'on la décide ensemble au sein de cet outil. Enfin, ça ne me paraît pas contradictoire, moi.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le chemin se fait en marchant, même si on a quelques idées, même si on a de l'expérience, etc. Enfin, c'est toujours la même problématique qui revient, on est d'accord. Hein.
Et justement, ça me permet de rebondir sur cette question qui est tout le temps dans le mouvement, dans le regard que portent les gens sur le mouvement anarchiste, c'est cette question de la destruction, cette question de la violence. Moi, par exemple, je me souviens très bien, à un moment, j'ai dit, je ne sais plus à quel dîner de famille, je vais faire un podcast sur l'anarchie, et la réponse que j'ai eue, c'est « Ah bon, tu veux poser des bombes ?» Et donc j'étais là, non. Enfin, bon, même s'il y a des fois, ça peut me traverser l'esprit, c'est pas la question. C'est marrant, vraiment, ça, c'est l'anathème, je dirais, la plus forte, peut-être, qu'on pose sur l'anarchie, quoi. Comment tu, un, la comprends, et deux, la dénonce, enfin, ou je sais pas,
alors,
la nuance.
Oui, oui, en fait, là, c'est pareil, c'est encore l'histoire qui rejoue. C'est toute la période dite des attentats dans les années 80, fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Donc j'en parle pas mal dans le livre, donc je ne vais pas donner tous les détails historiques, mais l'idée, c'est que quand même la répression s'accentue, et en particulier avec l'affaire de la Mano Negra en Andalousie dans les années 1880, après la répression de Haymarket à Chicago, etc.
Ça, c'est le 1er mai.
Et oui, qui va donner le 1er mai. La manifestation du 1er mai à Fourmies, où la troupe va tirer sur des femmes et des enfants, va avoir des morts. Donc là, il va y avoir une montée en puissance de la violence d'État, faut appeler un chat un chat. Et face à ça, un certain nombre de personnes, et en partie des anarchistes, ont dit on ne peut pas rester les bras croisés, il faut réagir. Et réagir sur. Alors, c'est là une période, cette période un peu complexe de propagande par le fait, dite de propagande par le fait, où tout était bon, aussi bien l'écriture que le poignard, la dynamite, etc. Donc, certains anarchistes se sont emparés de l'idée, de cette idée-là, mais dans une optique bien particulière, qui est évidemment oubliée, qui est celle du régicide ou du tyrannicide, qui n'est pas une logique terroriste. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que l'idée, on va supprimer le responsable de la répression, on va tuer, on va faire justice quelque part, voire vengeance, ça aussi c'est un débat dans le débat, contre le général qui a donné l'ordre de tirer, ou qui lui-même a tiré, contre le salopard qui a voté une loi inique, etc. etc. Donc cette idée de... Parce que derrière, c'est la responsabilité individuelle chez les anarchistes. C'est-à-dire qu'eux s'assument, et souvent ceux qui commettaient un acte de régicide ou de tyrannicide n'arrivaient pas à la cour pour dire « Ah, c'est pas moi, je suis innocent ». Non, au contraire, ils s'assument.
C'était une tribune.
C'est pas seulement. Bien sûr, c'était une tribune de propagande, mais ils assumaient leurs actes. C'est-à-dire « Je l'ai fait, pourquoi ? Voilà pourquoi ». Lui a eu la responsabilité de tuer des innocents. Moi, je tue le responsable de celui qui a commis ce crime-là, en fait. Voilà. Donc, il retournement de quelque chose. Le problème, c'est que quand on rentre dans ce type de logique et d'action, la dérive arrive très, très rapidement, parce qu'on finit par tuer des innocents qui se trouvent par là, etc. Et après, on va dire, ben, les innocents n'avaient pas qu'à être là. Donc, tout ce discours qui est extrêmement... Voilà. Donc, ça aussi, ça a quand même, ça a commencé un peu à véroler le mouvement anarchiste. Donc fin 19e, plus des choses qui étaient assez absurdes. Et il y a quand même, il y a eu une réflexion interne qui va culminer jusqu'au congrès d'Amsterdam de 1907 pour dire non, là, certains se fourvoient, c'est pas la voie, c'est pas notre voie. Donc il faut renoncer à ça.
Mais est-ce que c'était une question aussi de, quelque part, de constater l'inefficacité de ça ? C'est-à-dire, en fait, si on fait un tyrannicide, en fait, la personne qui la remplace est toujours là. Enfin,
oui, et c'est là, à mon avis, c'est à partir du congrès d'Amsterdam de 1907 que cette prise de conscience est sortie d'une certaine forme d'irénisme, d'idéalisme, de comme quoi on allait supprimer le tyran et les choses allaient changer. Mais même ça, c'est assez ambigu parce que en fait, il y a eu une réécriture ou une relecture de l'histoire du côté bourgeois ou du côté anarchiste, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément vu, compris le sens de ces actions-là. Des fois, c'était purement des actions de justice, voilà, bon, ce qui pose un problème. Mais il n'y avait pas forcément de volonté de déclenchement de la révolution. Sauf que certains anarchistes sont allés là, c'est-à-dire qu'on va secouer les masses, les foules vont se réveiller. Bon, ça, on a vite compris que ça ne marchait pas. Ça marche pas. Donc, mais bon, il y a eu cette complexité-là. Et puis, il y a aussi ce constat. Notamment, les Italiens sont allés beaucoup plus loin que les Français. Les Espagnols, c'est encore un peu différent dans ce bilan critique. C'est le livre de Luigi Fabri, donc de 1911, si ma mémoire est bonne, sur les influences bourgeoises sur l'anarchisme. Et on le trouve facilement sur la toile. C'est une petite brochure que je trouve extrêmement intéressante, un peu oubliée. C'est pas un hasard parce qu'il met un peu les pieds dans le plat, il gratte où ça fait mal, même chez les anars. C'est qu'il dit certains, et en particulier en France, et ça il le dit bien, se sont emparés du geste révolutionnaire des tyrannicides et des régicides. Donc il y a eu tout ce courant, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler.
Une sorte de romantisme de l'action, quoi.
C'est exactement le mot que j'allais utiliser. On va trouver Adam, Rété, Adolphe Rété, tous des gens qui vont être fascinés par le geste de l'ouvrier qui se révolte contre l'ordre établi et qui vont gloser là-dessus. Ils vont gloser. Et Fabry explique très très bien. Le problème, c'est pas tant qu'ils glosent. Tout le monde peut gloser, on est libre. Mais c'est que certains anarchistes ont fini par croire que c'était ça, l'anarchisme. Donc c'est pour ça qu'il parle de... Et pour lui, c'est pas innocent. C'est-à-dire que l'idée que donc c'est les influences bourgeoises sur l'anarchie, c'est que l'idée que en fait c'est très bien, les dominants ont trouvé, ont créé l'épouvantail parfait et ils l'entretiennent et ils ont fait fort d'ailleurs, ça marche, la preuve. C'est que maintenant effectivement, alors peut-être un peu moins, mais malgré tout, quand on dit anarchiste, ah oui, poseur de bombes. Voilà. Et on ne voit pas du tout tout ce qui a pu se passer dans forme de gestion directe, d'autogestion, notamment en Espagne. Voilà.
Tout ouais, ça, et puis tout le courant, mais ça j'en parlerai dans d'autres choses, mais toutes les questions de la pédagogie que tu as abordées voilà. Tout à l'heure, d'éducation populaire, de causerie, de
ça. Voilà. Ouais. Tout ça, voilà. Ça passe à la benne.
Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, cette figure-là, elle, pour moi, elle réapparaît énormément aujourd'hui encore, avec la figure épouvantable du Black Bloc. Qui ne chercherait que la destruction. Quand on lit la presse sur les Black Blocs, c'est des gens qui font ça en dépit du bon sens, qui sont nihilistes, qui cherchent à casser, qui n'ont aucune pensée politique. Enfin voilà, ce truc-là perdure à travers cette image-là, je trouve.
Alors, en réalité, c'est, ouais, c'est un vieux débat et qui ressurgit parce que... Là, c'est une opinion personnelle. Il ressurgit parce que le mouvement anarchiste est faiblement implanté socialement. Et il est faiblement implanté socialement dans tout ce qui est construction alternative ou plus ou moins alternative ou de résistance. C'est-à-dire qu'il y a cette idée toujours un peu... Alors, à mon avis, d'après 68... avec toutes les influences gauchistes, y compris un peu marxiste-léniniste, guévariste, qui traînent encore un peu dans les têtes, l'espèce de côté un peu romantique, de romantisme, fascination un peu morbide pour la violence, un peu compliquée, beaucoup de machisme aussi, on va dire ça comme ça. Hein, il y a des choses un peu, à mon avis, assez contradictoires, et que du coup, ça trouve une expression politique, et trouve une expression politique particulière, parce qu'en fait, c'est une expression tactique. Parce qu'il n'y a pas d'organisation qui s'appelle The Black Bloc in the World ou in France. Hein, okay. Donc c'est quelque chose qui est globalement relativement spontané, tactique au moment des manifestations. Pas tout le temps. La preuve, il n'y en a pas pendant les manifs contre le projet de retraite. Ce n'est pas un hasard. Parce que aussi, il y a une réflexion quand même sur la conjoncture politique. Est-ce que ça, c'est bien ou pas bien? Ça vaut le coup ou pas le coup? Et puis, il y a cette idée que je trouve un peu puérile, hein, franchement. C'est... de dire casser quelques vitrines de magasins de luxe ou de banques, ça va être un signal pour dire, pour montrer qui sont les méchants. Ok, moi je pleure pas les banques, hein, ça c'est pas ça le problème. Hein. Mais pour moi ça va pas bien loin. Ça va pas bien loin et je suis pas sûr que le message soit bien compris par tout le monde. Encore que, faudrait voir plus en profondeur, notamment avec ce qui s'est passé. Avec les gilets jaunes, parce qu'à un moment donné, parce qu'aussi on est dans une dialectique, et à mon avis, de toute façon, c'est là où il faut vraiment avoir une réflexion politique, c'est qui a intérêt au baston. Et moi, j'ai toujours pensé que le pouvoir avait intérêt à ça.
Bien sûr, les images sont terribles, ça discrédite un mouvement, enfin c'est évident.
Et même plus que le discrédit, parce que de toute façon, il y aura toujours de la propagande, il y aura toujours des médias plus ou moins aux ordres, plus ou moins stipendiés, mais c'est l'idée que c'est la criminalisation du mouvement, en fait, qui est cherchée derrière. Moi, c'est plutôt ça, comme ça, que je l'analyse. C'est-à-dire que, de toute façon, ils s'en foutent, hein, qu'il y ait quelques vitrines de brisées. C'est pas ça, leur, je parle des dirigeants. Hein, pas ça, leur problème. Par contre, criminaliser le mouvement, pas seulement le délégitimer, mais le criminaliser, le casser, ça oui.
Ça, c'est vrai qu'on le voit arriver avec cette notion d'association de malfaiteurs, hein, qui est utilisée à tire-larigot pour faire de la répression politique. Quoi.
Exactement.
Ça, c'est vrai, on le voit sur les mouvements des méga-bassines, par exemple. J'ai vu ça et j'ai vu ça à Bure. Mais c'est dans un autre de mes podcasts.
Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir sur Tipeee.
Je continue, hein, ma revue de mes petites notes. Bon, on a passé en revue donc la destruction, la violence, le terrorisme. Alors, c'est vrai que sur la question du terrorisme, ce que je trouvais toujours intéressant, et ça me paraît bien qu'on le rappelle, c'est qui donne le nom, en fait ? Qui donne ce qualificatif et qui montre du doigt en disant « toi, tu es terroriste ».
Bah oui, est-ce que la bombe atomique, c'est pas... C'est la terreur, enfin, c'est même ça, la dissuasion par la terreur. Donc c'est un autre niveau, ça a l'air propre sur soi, mais en attendant, c'est... Attention, si tu fais ça, je peux te bombarder. C'est du chantage, c'est une menace, c'est une forme de terrorisme. Bon, c'est sûr que dans les médias, je dirais pas les noms, mais on veut pas dire que c'est du terrorisme. Et pourtant, si, on va le dire pour méchant Poutine. Hein, là, il est vraiment méchant parce que lui, il le dit un peu plus fort que les autres.
Oui, puis comme c'est un ennemi d'un coup, c'est un terroriste.
C'est ça.
Alors justement, on a commencé à en parler, mais j'aimerais bien qu'on parle de ça. Et c'est cette idée de lier anarchie et utopie, mais aussi anarchie et impuissance. Et donc essayer de réfléchir à... assez souvent, quand je parle d'anarchie, une des premières questions qu'on va me poser, c'est est-ce que tu as un exemple de quelque chose qui a marché, quoi ? Je suis assez désarçonné, donc j'ai des idées, et puis plus j'avance dans mon podcast, plus je peux construire des réponses. Mais c'est vrai que par exemple, David Graeber, dans son livre, m'a beaucoup aidé, parce qu'en fait, lui, il dit, mais en fait, les gens, ils attendent quoi ? Ils attendent une réponse d'une société organisée et très structurée, alors que potentiellement, c'est pas ce que cherche l'anarchie. Et donc, forcément, je ne vais pas pouvoir répondre selon les canons attendus des gens qui regardent les sociétés, puisque c'est pas ce qu'on cherche. Donc quelque part, la question, elle est nulle et non avenue, mais c'est quand même compliqué de juste dire aux gens ta question elle est con, parce que c'est pas ça que j'ai envie de dire aux gens. Et puis s'ils ont la question, elle est légitime, quoi. Voilà.
Ouais, mais alors pour le coup, c'est là où il faut dissocier la question de l'utopie et la question de l'exemple.
Okay.
Bon, parce que les exemples, on peut en trouver. On peut trouver des exemples historiques, ce qui s'est fait pendant la Révolution espagnole, voire pendant les premiers soviets de la Révolution russe, ou la Makhtovchina en Ukraine, voir ce qui s'est fait en Mandchourie. Enfin bon, on peut multiplier des exemples, et pas seulement des exemples de lutte, mais plus qu'on a dit, les bourses du travail, les écoles, enfin l'éducation populaire, etc. etc. Je pense que peut-être le plus important, c'est cette question de l'utopie. Alors moi, j'ai une position assez tranchée là-dessus. Je pense que c'est absolument un mot dont il faut se garder. Alors là-dessus, j'ai deux cartes. J'ai une carte de réflexion plus politique que je vais te dire après. Donc si j'oublie, tu me rappelles. Et puis la première carte est une réflexion qui m'est venue plus par mes recherches en géographie et donc fatalement en histoire sur l'émergence de l'utopie, de cette idée d'utopie. Et en fait, l'émergence de l'idée d'utopie, Thomas More, donc à partir du XVIe siècle, puis après Campanella, Bacon et tous les autres, etc., l'idée d'utopie, elle est arrivée au moment des guerres de religion, et notamment chez More, pour une façon... en fait, c'était une réponse, et il le dit texto dans son ouvrage sur l'utopie, pour contredire Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin disait « La cité idéale n'est pas de ce monde. C'est les cieux. » Ok. Bon. Donc en attendant, on rame, on croit en Dieu.
Et on ferme sa gueule.
Bon, si on schématise, ouais, comme ça. Et puis avec un peu de chance, on ira au paradis et là, on rencontrera la cité de Dieu. Et Thomas More dit « Non, la cité de Dieu... » Alors c'est le protestantisme quelque part, par hasard, elle est possible sur Terre, elle est possible, elle est envisageable, mais lui du coup il reste dans une logique, pour moi qui est une logique religieuse, qui est une logique de construction d'un paradis, d'idée d'un paradis, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le fantasme de l'absolu, l'idée du paradis qu'on va retrouver aussi chez les communistes, d'accord, plus tard, c'est-à-dire cette idée d'une société idéale, parfaite, où il n'y a pas d'embrouille, tout le monde s'aime, frères et sœurs, on ne pense pas le conflit puisqu'il n'existe pas, alors qu'en réalité le projet anarchiste, il doit penser le conflit, puisque c'est là qu'est le problème à la fois individuel et collectif. Donc voilà, cette idée de société idéale, ça c'est, bon, c'est un pipeau intégral, mais c'est ça l'utopie. Et dans Thomas More, alors sa cité idéale, elle est terrible, parce que certes, il n'y a pas d'argent, mais en même temps, il y a les horaires de travail, c'est super strict, il y a des chefs, son utopie, elle est mortifère. Et après, tous les projets utopiques, pour moi, c'est du même ordre. Ça, c'est ma position personnelle. Je pense que même ceux qui fantasment en science-fiction, alors il peut y avoir des trucs intéressants, on peut libérer l'imagination, mais pour moi, c'est une fausse piste, c'est une impasse, c'est une voie de garage. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on est encore dans le paradis. Et ça, c'est pas la bonne idée. C'est une très, très mauvaise idée, l'idée du paradis. C'est, on spécule, c'est de la spéculation, c'est de l'idéologie, c'est de la métaphysique, c'est tout ce qu'on veut. C'est pas du concret. On part pas du concret, là, de ce qu'on est maintenant, là, de la merde où on est.
Alors moi, ce qui m'intéresse dans l'utopie, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la question de l'imaginaire. C'est-à-dire que moi, si on arrive, et par exemple la littérature ou des films, peuvent peut-être m'amener à me dire « Ah oui, ça pourrait fonctionner différemment, et voilà. » Et après, quelque part, je vois le risque que tu soulèves de devenir dogmatique sur « En fait, c'est ça le chemin, et il n'y en a qu'un. » Et donc, c'est évident que pour moi, quelque part, la question, elle est plutôt de comment je me rapproche de cette idée que j'ai eue. Mais bon, c'est vrai que je vois le piège que tu décris.
Ouais non, mais par contre, moi, je suis pour l'imaginaire. Pour plusieurs raisons, y compris des raisons de poésie, d'esthétique, parce qu'on rêve tous, des rêves qui sont plus ou moins rêvés, si je puis dire, des aspirations, etc. Parce qu'effectivement, ça peut libérer les énergies, ça peut faire penser à des trucs auxquels on n'avait pas pensé, etc. Sauf que là, c'est peut-être mon côté, c'est peut-être mon éducation, mon propre trajet, assez pragmatique, de concret. Bon, c'est sympa de rêver, mais maintenant, on fait comment, quoi, hein ? Est-ce qu'on y va en stop ? Est-ce qu'on y va en train ? Comment on fait ?
Qui conduit le train ?
Qui conduit le train et les horaires des marées et compagnie. Voilà, c'est, j'ai ce côté-là parce que je pense que dans cette histoire d'utopie, on n'est jamais très très loin de la religion. Et je pense que c'est mon grand dada. Je pense que Marx était extrêmement religieux. Et le communisme marxiste, même s'il se veut matérialiste, c'est Berdiaev qui a écrit des choses très très intéressantes là-dessus. Même certains marxistes le finissent par le reconnaître. Il y a un côté extrêmement religieux dans une vision future qui repose sur une vision du paradis. Pour moi, c'est plus qu'une impasse, ça t'empêche de construire réellement et puis ce que tu as dit, c'est-à-dire, mais ça, c'est, je dirais, c'est presque ce qui l'accompagne, c'est que fatalement c'est l'idée du modèle à appliquer, la recette valable en tout temps et en tout lieu, tout ce truc-là qui est extrêmement, extrêmement dangereux.
Alors, tu étais aussi contre l'utopie pour une raison politique.
Du coup, j'y suis arrivé naturellement. C'était ça, en fait. C'est l'idée. Alors, c'est aussi le fait que, au sein d'un mouvement, on va dire alternatif au sens très très large, c'est-à-dire y compris d'extrême gauche, non-léniniste, voire certains courants écologistes, voire tout un tas de choses, c'est assez intéressant de voir que beaucoup se revendiquent de l'utopie. Y compris même chez certains anarchistes, parce que bon, ils pensent que eux, ils confondent imaginaire utopie, hein. Mais ce que j'ai pu observer, et j'en parle notamment sur le puritanisme vert aux origines de l'écologisme, je pense que ceux qui véhiculent cette idée d'utopie sont soit religieux, soit crypto-religieux. Et bon, là, après, c'est mon travail qui recoupe géographie et écologie. C'est que chez les écologistes, on retrouve beaucoup de cette dimension religieuse en réalité.
Il peut y avoir des courants de Pachamama, de Gaïa, tout ça, c'est une incarnation assez religieuse, ouais. Enfin, moi que je perçois comme une entité extérieure, transcendantale, supérieure à nous.
Oui, et pas seulement ce type de référence, mais politiquement, c'est-à-dire pratiquement, okay. Ceux qui ont lancé le mouvement, par exemple Denis de Rougemont, Jacques Ellul. Enfin, tous ces référents-là, Hans Jonas, pour moi, ils sont religieux, ils sont extrêmement religieux.
Okay. Intéressant.
C'est un débat dans le débat. Hein.
Oui, mais c'est pas grave, ça nourrit, hein, de toute façon, c'est ça qui est intéressant. Il y a une chose qui transparaît un peu tout le temps dans le livre, et je voudrais potentiellement qu'on termine par ça, parce que moi, ça m'a beaucoup éclairé sur comment regarder l'anarchie, et quelque part... réussir à comprendre qu'il y a autant presque d'anarchisme que d'anarchistes et que il y a vraiment, enfin moi c'est ça qui me fait quelque part voyager politiquement et me nourrit, c'est cette question de la dialectique que tu amènes, ou donc la dialectique comme je la comprends c'est deux termes qui sont potentiellement opposés et c'est le chemin entre ces deux termes là qui va me faire moi avancer comme si j'avais un pied droit et un pied gauche. Donc je vais lire ce petit passage. La dialectique propre à l'anarchisme postule ainsi l'existence de deux termes opposés, contradictoires,
mais non solubles dans les idées comme dans leur application pratique. Cette approche, d'où est absente toute synthèse, contrairement aux philosophies classiques, hegeliennes et marxistes, est comparable au principe d'une pile électrique dont les pôles positifs et négatifs ne sont affublés que d'une valeur morale. Sans les négatifs, pas de positif et pas de courant. Elle fonctionne à l'instar, en somme, du couple yin et yang au taoïsme chinois, que certains considèrent d'ailleurs comme l'une des premières philosophies proto-anarchistes. D'où une tension entre liberté et autorité, spontanéité et organisation, violence et non-violence, guerre et paix, éducation et révolution, majorité et minorité, production et consommation, société et individu, nature et culture. Et là, c'est vrai que d'un coup, là, moi, je vois un... Enfin, je sais pas, c'est un truc à 1000 dimensions dans lesquelles je vais pouvoir me dire, ah ben alors, attends, là, est-ce que je suis plus spontané ou organisation ? Enfin, et j'ai l'impression, en fait, que l'anarchie, c'est un ensemble de points sur tous ces axes-là. Enfin, je sais pas, j'ai une représentation graphique, bon, moi, très mathématique, c'est ma formation, mais...
Voilà, quoi. Mais c'est pour ça que, en fait, là, c'est la difficulté du passage à l'anarchie, anarchie IE, à l'anarchisme avec le isme. Parce que certains, je pense à un anarchiste japonais qui s'appelle Osugi Sakae, qui disait qu'il aimait bien le socialisme, qu'il aimait bien l'anarchisme, mais que des fois, il n'aimait pas trop non plus. parce que justement, il avait peur de cet enfermement par l'idéologie. Voilà. Dans quelque part, je le résume, hein. D'accord. Et donc, l'anarchie, en fait, l'anarchie, c'est un état, c'est un horizon, c'est une situation, c'est même pas un projet politique. En fait, on va le penser après coup, mais l'idée d'anarchie, c'est l'idée, bon, bah, il y a personne qui nous dit ce qu'il faut faire, il y a personne qui nous dit des ordres, mais ça n'empêche pas qu'on puisse vivre et qu'on vit, de fait. Bon. Après, le passage au isme qui s'est fait après la Commune de Paris et autour de la Fédération jurassienne, donc dans les années 80, et par rapport justement aux communeux, c'est de dire, bon, ça ne suffit pas. Et par rapport au marxisme qui arrivait, et par rapport à l'individualisme qui se constituait à la même époque, c'est de dire, non, on ne peut pas continuer à rester sur sur des idées philosophiques assez générales. Il faut préciser le champ, il faut mettre un isme, il faut en faire une doctrine. Pas un dogme, une doctrine, ce qui n'est pas la même chose. Hein.
C'est quoi la nuance que tu amènes ?
Le dogme, c'est dogmatique, c'est qu'il faut appliquer le dogme, il faut lire l'évangile, etc. La doctrine, c'est un certain nombre de principes que tout le monde partage.
Et qu'on peut remettre en question.
Et qu'on peut remettre en question, absolument. Bon. Les organisations anarchistes fonctionnent comme ça. Les anarchistes se reconnaissent entre eux, les uns les autres, à partir des principes de base que telle ou telle organisation anarchiste adopte. Mais du coup... Là, on arrive dans le ici et le maintenant et l'histoire. C'est-à-dire que notre discussion, elle n'aurait pas le même sens dans un café de Barcelone en juillet 36 ou encore autour d'un samovar à Leningrad en 1917. Là, on est en 2023. Voilà. Et parce qu'on a nos propres parcours, parce qu'on hérite pas seulement notre histoire, mais l'histoire de tout mouvement social, de toutes les recompositions, de tout... Enfin bon, ce qui est devenu la gauche, l'échec de la gauche, y compris de l'extrême gauche. Je me souviens, j'avais été invité dans un débat sur l'autogestion il y a quelques années dans une ferme autogérée qui se trouve dans le Bugey. Et c'était au moment où Syriza, en Grèce, était arrivé au pouvoir. Et moi, j'étais très, très tranché. J'ai dit, mais arrêtez de vous faire des illusions. Comme tous les autres, ils vont passer sous le harnais. Et puis, peut-être plus vite que les autres. C'est exactement ce qui s'est passé, hein. Donc on a bien vu que même Syriza, qui pouvait être intéressant, avec des mots d'ordre intéressants, à partir du moment où il était dans une logique étatique et fatalement de concession avec la Troïka, que d'autres, que sais-je, allait fatalement subir ce sort-là. Bon, alors là, je me suis fait rentrer dedans. Hein. Bon, voilà.
Trop d'espoir, en fait.
Oui, c'est ça. Après, je peux comprendre ça. Bon, après, c'est mon côté un peu... Peut-être que je cultive trop le sentiment de lucidité... C'est peut-être ce côté-là qui va avec mon côté un peu pragmatique, c'est que ça m'empêche pas de rêver. Hein.
Mais
c'est marrant parce que du coup, enfin là, je suis désolé, c'est en contradiction avec ce que je disais off, faire attention à pas parler trop de soi-même, mais du coup, c'est pour ça que je m'intéresse aussi au Japon, c'est mon terrain de rêve. Mais le rêve, parce que ma femme n'est pas japonaise, hein, donc j'ai pas d'implication. Direct, ou j'ai pas de lien avec le Japon, c'est seulement un lien affectif. Parce que ça me plaît, ça me fait réfléchir, et qu'il n'est pas forcément complètement politique, mais fatalement, il m'amène à la politique, parce qu'on voit ce qui se passe au Japon.
Bon. Ouais, ça, je t'avoue, je ne suis pas assez, je ne connais pas bien le Japon.
À Fukushima, quand même.
Oui, bon, c'est à Fukushima, forcément.
Et avant, Hiroshima. Bon, voilà, tout ça. Bon.
Moi, je suis un grand fan de Günther Anders, donc la question d'Hiroshima me passionne.
Pas d'accord avec Günther Anders.
C'est vrai, t'es pas d'accord avec Günther Anders? Ah bah attends, on va parler de ça, mais peut-être quand on mangera alors. Bon, mais ça c'est une phrase de Malatesta que j'adore, mais je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais je te la relis parce que vraiment je l'aime trop. Une phrase de Malatesta: il ne s'agit pas de faire l'anarchie aujourd'hui, demain ou dans 10 siècles, mais d'avancer vers l'anarchie aujourd'hui, demain, toujours. Voilà, moi c'est... Merci
mais
Malatesta.
Elle est souvent citée, celle-là,
parce que... Bah oui, mais parce qu'elle résume tellement bien cette question de chemin, quoi. Alors attends.
Et soit dit en passant, peu importe le isme, c'est-à-dire que c'est là le truc, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes ont des comportements qu'on pourrait, ou des attitudes, des positions, des convictions anarchistes, istes, sans le savoir, sans le dire, et à la limite, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, sauf qu'à un moment donné, ça serait bien que ça se cristallise socialement, collectivement.
Bah, qu'on le sache, ouais. Mais ça, c'est l'ordre moins le pouvoir, je crois, de Bayarjon. Non, j'ai oublié son nom.
Bayarjon, ouais.
Où il dit, c'est dans le début de son livre, où il donne plein d'exemples pour dire, mais en fait, on a tous les pratiques anarchistes, mais on ne le sait pas. Quand on installe 4 t-shirts pour faire des buts et qu'on se donne des règles de on n'a pas le droit de faire ça, on ne peut pas tacler, on fait ça, eh bien juste on se donne des règles sur un moment, à un endroit, sur comment on va partager un lieu pour jouer au foot ensemble. Il dit ça, c'est clairement une démarche anarchiste.
Oui, oui. Oui, étant entendu qu'en plus, selon les sports, on n'a pas les mêmes logiques. Et on voit la différence entre le football et le rugby à ce niveau-là, hein, quoi, y compris par rapport à l'arbitrage. Donc ça veut dire que... C'est ni bon ni mauvais, mais il y a des possibles infinis en fait au sein de l'être humain. Enfin, on le sait ça, y compris le cerveau, on l'utilise pas à 100%. Donc en fait, ouais, c'est peut-être un motif d'espoir.
Alors j'ai retrouvé ce que je voulais lire.
Ouais.
C'était donc le passage de Félix Carasquer.
Très bien.
Alors attends, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en 1936, les libertaires aragonais étaient 10 000 ou un peu plus. À eux seuls, ils ne pouvaient pas instaurer le communisme libertaire. C'est la rencontre, l'imbrication entre leurs propositions et les aspirations de tout un peuple qui rendit la chose possible. La permanence de l'anarchisme tient au fait qu'on peut détruire une organisation, mais pas une idée. Une idée simple, en somme: si tu veux être libre, sois-le, mais avant tout, apprends à l'être.
No comment.
Ouais.
Non, c'est en plus de la part de quelqu'un comme Carasquer, c'est clairement une pensée qui vient de, j'allais dire, du peuple. Enfin, on sent la vie. C'est aussi ça qui est très intéressant dans tous les témoignages des anciens anarchistes espagnols, enfin de l'époque, de la Révolution, c'est qu'on sent le vécu, le vivant, le fait que c'est pas une abstraction philosophique qui plane, c'est pas des intellos qui se réunissent dans un bureau, c'est même pas un bureau politique, c'est vraiment fait de chair et de sang. En plus, il y a beaucoup d'histoires d'amour souvent dans ces témoignages, parce que c'est aussi une libération de ce côté-là, hein, par rapport à l'Église, par rapport à la norme sociale, la norme bourgeoise. C'était aussi la découverte des uns et des autres, des unes et des autres. Ces témoignages, ils sont super fabuleux. Carasquer, c'est super.
D'une Espagne rouge et noire, donc c'est le livre de Carasquer. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Philippe. Alors, je ne sais pas justement, moi, j'ai choisi un peu les idées reçues que je voulais traiter, mais peut-être que j'en ai oublié une qui, toi, te semblait essentielle. Non, ça va, tu es content.
Non.
Ok, eh bien écoute, merci beaucoup pour ton temps. Je reviendrai à Lyon parce que je veux absolument connaître Élisée Reclus. En fait, je ne connais pas Élisée Reclus, je ne connais pas sa pensée. Tu es bien gentil. Donc je le lirai pour la prochaine fois. Si tu devais juste comme ça me donner envie de lire Élisée Reclus, qu'est-ce qui te semble, toi, essentiel dans son parcours ou sa pensée? Voilà, je te prends de court, c'est peut-être une mauvaise question.
Non, parce qu'en fait, il y a deux choses. On va sortir un abécédaire reclus, les 101 idées sur de la pensée reclusienne. Il n'est pas encore sorti, donc. Par contre, il y a un livre qui vient de sortir, qui a été écrit par Isabelle Louvio, qui est très bien. Donc, ce qui est une bonne initiation à la pensée reclusienne. Et okay. Qui, par rapport à d'autres textes, montre que même de ce côté-là, ça avance.
Bon, j'irai voir Isabelle Louviot pour qu'elle me parle de ça alors. Merci encore Philippe et à bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire d'A.
Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir sur Tipeee.
Les bourgeois détestent l'anarchie.
Les bourgeois, c'est comme les cochons.
Chacun avait de l'anarchie une idée tout à fait personnelle.
Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente. D'accord, mais de mort lente.